Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises, surtout quand il y a des gros sujets. Donc aujourd'hui, on va parler de La Ch'ti de Famille, de Danny Boone, avec Danny Boone et toute une kyrielle de comédiens. Je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai des analystes ch'ti. Hugo Alexandre, bonjour.
Salut Daniel.
Et Amandine Schmitt.
Salut Daniel.
Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens.
Parlons d'inspiration, quelles sont vos influences?
Oh, je dirais principalement nous-mêmes.
Jusqu'au jour où il a connu...
Mon beau-frère, Charles Ch'ti, il a honte de nous, puis c'est tout. Hein.
Une grosse rechute.
Maman! Oh, je suis content de te dire, hein.
Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement.
Mais chez qui, Boubourge, qui parle pas normalement?
Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire.
Là.
Là,
comme lapin.
Lopin. Un lopin. Hein?
On va commencer plus simplement. Hein? Qu'est-ce que c'est?
Un lopin?
Non, un lièvre.
Un lièvre.
Très bien.
Non, vre. Vre. Vre.
C'est une cadence impressionnante pour Danny Boone. C'est déjà son 6e film. Et seulement un an après son 5e, et on imagine qu'il a déjà le prochain dans le pipeline. Et il revient déjà à la terre de ses amours, qui est le ch'ti. En fait, il a fait une OPA sur les ch'tis. C'est l'histoire de Valentin, qui est un designer hors pair, très prout-prout, très palais de Tokyo, qui design des chaises sur lesquelles on ne peut même pas s'asseoir. Et il a un choc sur la tête, et du coup, ça le fait retourner à ses 17 ans. Ce qui est un truc déjà classique. Mais à ses 17 ans, ch'ti, à l'époque où il n'était pas bilingue, ch'ti français. Et du coup, il se remet à parler ch'ti. Et justement, il y a sa famille qui revient. Et donc, c'est le clash des civilisations. Hugo, je vais commencer par toi. Comment te situes là-dessus?
Alors, c'est toujours pareil. On évalue un film par rapport aux attentes qu'on avait. Et je dois dire que j'avais peu d'attentes vis-à-vis de ce film, après avoir vu Superchondriac et Red Dingue, qui étaient ces deux derniers films, qui étaient très poussifs. Alors que moi, je suis plutôt client de Bienvenue chez les Ch'tis et même de Rien n'est déclaré. Et en fait, je trouve que ce film-là revient à peu près à l'esprit de ces films-là, c'est-à-dire qu'il y a une vraie intrigue qui est tenue du début à la fin, contrairement à Superchondriac où Danny Boone avait tendance à faire un peu du Pierre Richard, à se lancer dans des élans un peu burlesques qui n'en finissaient pas et donc qui éloignaient le film de son intrigue.
Et il utilisait toujours la carte des Roumains. Il y a toujours ce point de truc avec les Roumains qui débarquent.
Ouais, il n'y a plus de Roumains.
Il n'y a plus de Roumains dans ce film, on est perdu.
Et dans Red Dingue, c'était Alice Paul qui faisait du Pierre Richard. Et là, dans ce film, il y a un truc, une espèce de twist, c'est que personne ne fait du Pierre Richard, mais quelqu'un est Pierre Richard. C'est Pierre Richard, attention. Et en fait, Pierre Richard, dans ce film, il n'est pas du tout dans l'histoire, en fait. Il est là que pour faire des petites pastilles de temps en temps, des pastilles Pierre Richard, donc burlesques, où donc il se pète la gueule,
il fait une inondation.
Il déclenche une inondation, voilà. Et c'est pas du...
Ça a été tourné par webcam, hein, je pense. Tu sais, il a tourné ça chez lui.
Par Skype.
Sur fond vert. Et en fait, ça ne nuit pas du tout au film, et l'intrigue, en parallèle, continue à se dérouler. Et est plutôt bien rythmée, plutôt bien construite. Et donc, du coup, je ne dirais pas que j'ai aimé le film, mais j'ai quand même été agréablement surpris par rapport à ces deux précédents qui partaient un peu dans une direction burlesque que j'aimais, moi.
Et toi, Amandine?
Moi, comme Hugo, j'ai été assez surprise, mais je pense que ce n'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Moi, je m'attendais à de la grande comédie populaire, un peu comme dans Bienvenue chez les Ch'tis. Or, on n'est pas du tout dans le même registre, donc c'est assez, ça change complètement. Je trouve que c'est pas une comédie, je trouve que c'est une espèce de fable sur l'ascension sociale. Et en fait, on a Danny Boone qui réfléchit plutôt à ce que ça veut dire de sacrifier sa famille, sacrifier ses origines quand on veut réussir dans la vie. Donc, puisqu'il parle d'une famille ch'ti, mais qui est aussi pauvre, parce que c'est un élément qui manque dans le titre, parce qu'on pourrait dire la pauvre ch'ti de famille. Là, il devient parisien et très riche, et il en est réduit à la honte de classe, il ne veut plus présenter sa famille. Et ça, je trouve que c'est un élément très intéressant, mais qui n'est pas très drôle. Après, il l'approche avec une certaine sensibilité. J'imagine qu'il y a peut-être du vécu là derrière. Donc, c'est pas inintéressant du tout. Et ça m'a plutôt plu, même si on rit pas aux éclats.
En fait, c'est peut-être ça, c'est que c'est un film qui a une âme, contrairement à ces deux précédents où il y avait un sujet fort. Enfin, il y avait un pitch fort, mais il n'y avait pas forcément de background derrière qui méritait de développer un film entier sur la thématique. Quoi.
Et j'ai l'impression que c'est aussi symptomatique du parcours de Danny Boone, qui aujourd'hui a plus de choses à dire sur les Parisiens chics que sur le Nord, en fait. On dirait qu'il a un petit peu basculé de l'autre côté.
D'ailleurs, c'est ce qu'il fait dans ce film, c'est qu'il a délégué en fait, le rôle des ch'tis à une team ch'tis, en fait. Donc il y a Pierre Richard, tu l'as dit, Hugo, mais il y a aussi Valérie Bonneton, qui fait son meilleur ch'ti au jeu, et Lynn Renault qui visiblement est bilingue, et Guy Lécluse qui, enfin vraiment c'est toute sa bande habituelle, et il y a vraiment une opposition entre cette team ch'ti et de l'autre côté du prisme, bah il y a Laurence Arnay et aussi François Berléand qui joue le méchant, comme dans tous les films cette année il est le méchant. C'est un peu notre...
Dans tous les films tout court.
Oh oui, c'est ça. Mais il a un côté méchant de dessin animé qui est assez appréciable.
Il a un méchant de cartoon, c'est assez sidérant. Et du coup, il y a en fait plusieurs films en Inde, à mon sens. C'est que il nous avait fait le coup avec Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis est une fausse comédie, c'est un buddy movie en fait. Et alors qu'ici, on te présente ça comme une grosse comédie, grosse gaudriole. Mais en fait, il y a plusieurs films en un. Il y a le film familial, mais il y a aussi la vision de l'art moderne, enfin cette vision un peu, cette caricature, enfin c'est un truc assez récurrent. Et puis il y a les méchants de cartoon, il y a plein de films.
La comédie romantique.
Il y a la rom-com avec Laurence Arnay.
Pas tout à fait rom-com.
De couple qui patine un peu.
Alors oui, c'est ce qui...
C'est une comédie sur l'amour plus fort que tout, et moi je trouve ça assez malin, parce que ça aurait été assez facile de faire de Laurence Arnay une espèce de pétasse snob et tout, et en fait elle a un arc où elle va essayer de comprendre les origines de son mari, et elle va plutôt bien s'en sortir.
Mais c'est ça qui est surprenant, c'est que Laurence Arnay, Danny Boone a pas toujours été doué pour faire les rôles de féminin autour de lui, et je pense à Super Condriac, enfin, ou à... Red Dingue, genre où tu disais ah quel est le problème. Là, Laurence Arnay, elle est au moins aussi talentueuse que lui, mais en plus, elle essaie, comme tu disais, elle essaie d'apprendre la langue, mais en plus, c'est elle qui est le facteur d'intégration entre la famille ch'ti et les Paris. Enfin, elle met quand même.
Oui, ce qui est bien, c'est que des deux côtés, il y a un personnage féminin fort, parce que de l'autre côté, il y a Lynn Renault qui est assez touchante, moi je trouve. Elle est tellement drôle.
J'ai cru que tu allais dire que c'était Valérie Bonneton, or elle est assez effacée finalement.
Ouais, alors Valérie Bonneton, elle a un rôle hyper caricatural, parce que non seulement elle est ch'ti, mais en plus, elle est complètement abrutie.
Alors,
c'est un peu le cas de tous, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, ce qui rapproche le film un peu des Tuches, je trouve.
Oh.
C'est un peu le défaut.
Légèrement.
Du film.
Non, je suis un peu d'accord avec Hugo. C'est vrai que le problème, c'est que les ch'tis sont traités comme des gogoles, quoi, en fait. Ils font des réflexions qui sont de l'ordre de on comprend pas les choses, alors que c'est juste qu'ils parlent pas la même langue en fait. C'est juste
ça dépend des personnages, mais Valérie Bonneton est particulièrement corsée dans ce domaine-là.
Lynn Renault ne reconnaît pas les gens, alors que simplement parce qu'elle parle ch'ti. Enfin, tu vois, il y a vraiment des choses qui sont faites sur la bêtise. Ouais.
Je la trouve assez bien, Lynn Renault. Hein.
Oui, bien sûr, mais c'est l'écriture du rôle qui est comme ça.
Je sais pas si c'est l'écriture du rôle ou si c'est Lynn Renault qui est insubmersible et quoi que tu lui donnes, elle s'en sort.
C'est peut-être ça. Est-ce qu'on devrait pas parler un peu de Danny Boone finalement, qui est un peu un acteur extraordinaire?
Danny Boone, il est très bon pour faire le ch'ti, mais je trouve que... Alors, il y a deux films dans le film concernant Danny Boone. C'est qu'au départ, il joue le parisien snob pédant.
Qui joue pas mal, en fait. Hein.
Ouais.
Bah, j'allais dire le contraire, en fait. Je trouve qu'il est beaucoup plus convaincant en ch'ti. Donc, à partir du moment où il a cet accident de voiture qui le fait redevenir ch'ti, Et donc il reprend l'accent et tout. Et là, je trouve beaucoup plus convaincant. Et avant, je trouve que son parisien pédant, il est peut-être un peu trop, un peu too much.
Surtout, il y a un truc.
Il dit pas bonjour aux gens, mais vraiment de manière.
Il dit pas bonjour aux gens. Il fait la couve de tous les magazines. Le jour où t'auras un architecte qui fait la couve de Paris Match et tout ça, c'est.
Oui, ouais, je me demandais aussi dans quel monde.
Et je trouve que dans tout le début du film, tous les personnages sont hyper forcés, toutes les situations, toutes les répliques même. Ça sonne un peu faux.
Ah, ça part très très mal ce film. En plus du fait qu'on comprend rien aux ch'tis.
Et il y a un truc avec Danny Boone, pour, en tout cas pour tous les films que j'ai vus avec lui, c'est que même si le film, il y a des passages à vide ou des moments de trucs que j'aime moins, mais il y a toujours ce que j'appelle le moment Danny Boone, où il joue vraiment le mec qui fait des sketchs. Quoi. Mm. C'est vraiment le mec qui fait vraiment le gag BD, quoi, le gag Gaston Lagaffe. Et pour moi,
la scène de la salle de bain.
Et pour moi, c'est la scène de la salle de bain, c'est qu'à un moment, il se réveille donc avec son cerveau de 17 ans et il se dit, je vais prendre une douche, sauf que rien ne fonctionne. Et il est extraordinaire à ce moment-là. Enfin, je sais pas, moi, je me suis vraiment bidonné.
Moi, je le trouve pas mal, puis je trouve que la scène est un peu filmée comme une scène de guerre où tu te demandes d'où les jets vont sortir, la menace est partout, donc c'est plutôt assez réussi.
Moi, je suis pas très client de ce genre d'humour. Je trouve qu'il en abusait dans les films précédents. Et là, je trouve qu'une bonne scène comme ça, bien rythmée, ça suffit. Et je trouve qu'elle passe très bien. Alors que je suis pas très.
Pour toi, la douche ne devrait pas être une guerre.
Ouais. J'ai remarqué que Danny Boone est souvent en lutte avec les accessoires de la salle de bain. Je sais pas pourquoi. Dans Un plan parfait, il y avait ça aussi. Dans Super Chondriac, il était aussi dans un espèce de.
C'est le Pierre Richard de la salle de bain.
Ouais, c'est...
Et dans le film avec Diane Kruger, il y a un moment extraordinaire où il se fait piquer en anesthésie la gueule. Et il est sur le feu.
Il y a une scène où il a un shampoing.
Oui, il y a le shampoing.
C'est pas un shampoing en fait, on l'a piégé. En fait, c'est un truc qui épile les cheveux.
Ouais, il a un gel épilatoire et il se le met dans les cheveux. Il y a ses cheveux qui partent.
Il n'y a plus de cheveux.
Ouais, mais moi j'aime bien le passage où il se met quand même les coups de seringue dans le visage et qu'il a une tête, mais il ressemble à Elephant Man.
Médical dans son cinéma.
Bon, on va s'écouter une vanne.
Il a 2 mois pour faire le plus de progrès possible. Passer ce délai, il restera comme ça à vie.
Ah non, c'est horrible. Il est totalement amnésique et il a 17 ans d'âge mental.
Qu'est-ce que c'est?
Un lièvre.
Non, vreux. Vreux, vreux.
Une taube.
Là.
Allez, je s'en fous de la couleur. C'est le nom qu'il veut.
Il y a Anthony ici.
Oui, moi.
Vous êtes bien du Nord, n'est-ce pas?
Donc j'aille.
Donc je vais. Pas de conjugaison.
Non, pas besoin.
Oh là là, il pleut des cordes. Va Dieu, ça drache là.
Oh, est-ce que c'est moche? Va Dieu, ça drache là.
Jean-Point. Vous êtes de la crème solaire?
Oui, mais forcément dans le Nord.
Ah.
J'étais en train de me poser la question, quel est l'intérêt pour lui de revenir encore sur le thème ch'ti? Je veux dire, le mec, il a fait un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. On ne peut pas lui enlever ça. Il va être
la réponse à la question.
Non, mais le mec va être le premier césarisé pour une comédie populaire comme ça.
Bah ça, c'est plutôt bien.
Et pourquoi tu reviens là-dessus?
Dingue, c'est pas bien quand même d'être récompensé pour ça.
Ouais.
J'aurais préféré qu'il soit
On a eu un débat l'année dernière sur Red Ding, et tu sais que Red Ding, je le sauve pour Yvon Attal. Yvon Attal qui joue
c'est
comme.
C'est vraiment pas une raison pour laquelle.
Mais tu sais qu'en plus, Yvon Attal, il ne jouait pas comme ça naturellement. Et en fait, c'est Danny Boone qui lui a donné les instructions. Non, vas-y à fond, play-la, vas-y, joue comme Joker, quoi. Et du coup. Non, mais vraiment, il y a un truc de direction d'acteur. Ouais, vraiment.
César, meilleur second rôle, alors. Pour Jean, c'était Yvon Attal? Ah oui, c'est
non, mais il ne l'aura pas. Hein. Non, mais en plus, on enregistre, il faut le dire, à quelques heures des Césars. Et cette soirée va quand même, il y aura des comédies qui vont peut-être gagner des prix.
Le sens de la fête a eu je ne sais pas combien de nominations.
Ouais.
Donc,
ça reste ouais. Alors, est-ce que la ch'ti de famille va réussir le coup de poker? Cette année, on parle de Red Ding. Red Ding ne l'aurait pas eu puisque les Tuches 3 l'ont dépassé. Les Tuches 3 ont dépassé les 5 millions.
Non, mais ça va un peu secouer la cérémonie des Césars, quand même.
Bah, peut-être. Ça va être le moment.
En tout cas, je crois que la Ch'ti de famille a fait le meilleur démarrage pour un film français depuis Bienvenue chez les Ch'tis.
Et en même temps, il a fait la même stratégie, c'est-à-dire il l'a sorti une semaine avant là-bas. dans le Nord et ça a porté ses fruits en fait.
Non mais je pense que le bouche à oreille va être plutôt bon parce que le film est vraiment plutôt réussi dans son genre. Alors c'est pas du tout c'est pas très corrosif, c'est pas subversif pour deux sous, mais c'est un bon film familial.
Et il faudrait quand même dire que la gamine est insupportable parce qu'on parlait de toute la famille ch'ti, mais c'est la seule qui n'a pas l'accent. C'est pas ça qui fait d'elle quelqu'un d'insupportable.
C'est pour montrer son intelligence.
Mais oui, non, mais en fait, les enfants qui donnent des leçons de vie, c'est pas possible. On n'arrête pas d'en voir.
C'est pour ça que ça m'a fait penser aux Tuches aussi. C'est que dans les Tuches, c'est pareil. Il y a l'enfant qui est le plus intelligent que tous les membres de la famille.
En fait, ça me fait penser un petit peu à ce procédé là dans les films américains de la Manic Pixie Dream Girl. Donc la fille qui révèle ses aspirations au héros et qui le pousse, et ben là on a le Manic Pixie Dream Kid qui lui rappelle ses origines et qui met le héros sur la bonne voie.
Oui, parce que finalement à la fin, évidemment, on peut spoiler un tout petit peu, mais évidemment il va pas redevenir l'architecte arrogant. Au contraire, il va reprendre les valeurs,
les vraies valeurs.
Tout ça. Enfin, genre il y a une espèce de morale. De morale d'Annie Bounesque. Je voulais juste dire un mot sur Pierre Richard. Tu en as parlé, Hugo. Moi je trouve qu'il a une scène quand même émouvante, celle où il s'explique enfin avec son fils, mais avec un tractopelle.
Émouvante avec un tractopelle.
Une explication finale.
Je trouvais que c'était pas mal.
Vu que le personnage, on l'a vu que dans des situations burlesques, je trouve qu'il manque un peu de profondeur, du coup cette scène finale marche un peu moins
surtout,
qu'elle devrait.
Il joue pas avec les autres en fait. Même avec sa propre
famille. Il joue au téléphone en fait.
Ouais, il joue au téléphone. Puis moi j'ai pas trop aimé ces scénettes parce que finalement on voit juste un homme. Qui n'arrive pas à se débrouiller sans l'aide d'une femme, c'est-à-dire qui fait griller ses tartines et qui fait une inondation avec la machine à laver juste parce qu'il n'a pas d'aide ménagère. Donc moi, c'est pas trop un truc qui me fait rire.
À toi, voilà. Non, toi, non.
Non.
Et en plus, Pierre Richard qui va être quand même à l'honneur puisque bientôt il est à l'affiche de Madame Mills, donc un film de Sophie Marceau. Et donc ouais, c'est son année en fait. Il revient en force. Enfin, il a.
En même temps, il tourne pas mal depuis toujours. En fait, il fait bien 2-3 films par an depuis longtemps. Et oui, alors Madame Mills,
Madame Doubtfire française, c'est ça ?
Je ne spoilerai pas mon avis. Il faut quand même dire un truc, c'est que ça se termine par une scène ubuesque sur du Johnny, en fait. Senti arriver quand même.
Tu spoil un peu, là. Quand même.
Ouais. Non, mais voilà, il y a une espèce d'hommage, il y a une hommage bizarre à Johnny.
Moi je trouve que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe.
Un hommage suédé, j'ai envie de dire.
J'adhère pas trop aux scènes chantées comme ça dans les films. Et pour une fois, moi je trouve qu'elle est plutôt bien amenée la scène parce qu'il y a un enjeu dans cette scène-là. Sans vouloir dévoiler ce qui s'y passe, même si ça n'a aucun intérêt.
C'est bien ce qui me semble aussi.
Mais pourquoi pas, je dis. Enfin, ça conclut bien le film. Moi ça m'a pas dérangé. Alors que d'habitude ça me dérange ce genre de séquence chantée.
Alors, c'est le moment de dire combien on met sur la table. Amandine, combien tu mets sur la table pour aller voir la ch'tite famille ? Et en bonus, tu me diras combien tu mettrais pour Bienvenue chez les ch'tis.
Je ne me rappelle plus combien j'ai payé à l'époque.
Pour moi, oui.
Pour la ch'tite famille, peut-être 5-6 euros.
5-6 euros, quand même.
Ouais, quand même. Ouais. Je ne vais pas passer un mauvais moment.
Et toi, Hugo ?
Moi, je partais plutôt sur 3-4 parce que c'est... J'ai quand même pas énormément ri. J'ai pouffé quoi, avec le nez. Fait, comme ça.
C'est les meilleurs, celles-là.
Ouais. Il y a quand même une pénurie de comédie française en ce moment qui fait qu'on peut réévaluer ce genre de films familiaux, pas très offensifs, mais quand même assez marrants. Et Bienvenue chez les Ch'tis, je dirais quand même ce que c'est au-dessus. Mais je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, donc je pense que j'aurais mis 7-8 euros à l'époque.
Mais... Bienvenue chez Ch'ti, c'est un film sympa. Celui-là n'a pas le même karma.
C'est un petit peu différent, ouais, c'est vrai.
Celui-là, il essaye de...
Le film de la maturité, peut-être. Voilà.
C'est ça. Et vous savez, c'est la coutume, c'est le moment de faire des petits recos. Amandine, est-ce que tu veux te lancer ?
Oui, alors moi, j'ai été très impressionnée par Laurence Arnay, qui tient bien son rôle et qui n'est pas facile. Et comme je le disais avant...
C'est son meilleur film.
C'est son meilleur film, mais ce n'est pas facile de partir sur une caricature de parisienne très détestable. Et du coup, je me suis rappelée qu'elle a été connue pour sa mini-série en 2015 qui passait sur Canal+. Donc, c'était des petits épisodes de 3 minutes et ça s'appelait « Fille d'aujourd'hui ». Et là-dedans, elle campait des stéréotypes de femmes, donc tu avais à la fois une community manager, une blogueuse mode ou une coach. Et c'était
ça en plus avant que ça soit à la mode en plus. Ouais.
Avant que les blogueuses mode soient à la mode.
Ouais, avant que les blogueuses mode deviennent un vrai phénomène.
En 2015, je pense qu'on était parti quand même.
Non, bah, je me fie à ton expertise.
Ouais. Et elle était assez drôle, elle maîtrisait bien. Puis en plus, il y avait toute une transformation physique. Elle adoptait le look de ces femmes et c'était vraiment plutôt bien fait. Et j'ai vu qu'on peut encore les regarder sur Dailymotion. Donc voilà, wow, ce site où personne archive. Ne va, c'est l'occasion. Donc, qui d'aujourd'hui ? Non, pas sur YouTube.
Donc, il y a deux raisons d'aller sur Dailymotion, pour Chroma et pour... Et redis-moi le titre de...
Fille d'aujourd'hui.
Fille d'aujourd'hui. J'étais vraiment bien, je l'ai regardé avec, avec délectation. Et toi, Hugo ?
Je suis assez d'accord avec Amandine, déjà sur Fille d'aujourd'hui. C'est l'une des choses qui m'ont fait aimer Laurence Sarné, qui me fait dire aujourd'hui qu'encore qu'elle n'a pas eu son vrai rôle, parce qu'elle a beaucoup de talent et on le voit encore dans La Petite Famille. Moi, je vais conseiller un film qui est plus... qui parle d'art contemporain et de choses comme ça. Ça s'appelle Art School Confidential. C'est un film qui est un direct tout DVD qui est sorti en 2007 de Terry Zwigoff. C'est adapté d'une BD de Daniel Clowes où il parlait de son expérience dans une fac d'art. Donc il a passé 4 ans et où ça lui a pas trop plu, visiblement. Parce qu'en fait, il raconte la vacuité de ce milieu, le snobisme, etc. Donc il y a John Malkovich qui joue un prof particulièrement... maniéré et snob, qui encense des élèves qui font des espèces de monochromes, qui plongent dans des bains de peinture et qui plongent dans des toiles.
Alors disant, c'est bien, voilà. tu t'es éveillé à la
donc
peinture.
C'est un film assez drôle sur ce milieu-là. Après, ça part un peu en thriller parce qu'il y a une histoire de meurtre et tout. C'est un peu moins réussi la deuxième partie. Mais c'est assez drôle sur une bonne heure et je le conseille vivement, malgré le fait que ce soit sorti qu'en DVD. Art School Confidential.
Ah, c'est un chouette film. Eh ben, écoute, je reste dans l'ambiance art moderne grâce à toi, puisque je vais recommander une comédie qui a une comédie dramatique, mais une comédie quand même. On s'est vraiment bien marré et qui a eu une palme d'or. C'est The Square de Ruben Östlund. Évidemment, tu peux pas dire que c'était l'outsider, puisque quand t'es sorti de la salle, Hugo, tu as dit c'est bon, celui-là il a la palme d'or. Et ouais. J'en suis témoin. C'est pas de l'arnaque. C'est un film avec plein de Suédois, mais aussi Elisabeth Moss et Dominic West. Et la scène la plus connue maintenant, et celle que vous pouvez retrouver sur YouTube, c'est celle où il y a un mec qui incarne un singe, mais de manière, comment dire, il est le singe. Quoi.
Ah, pour le coup, c'est pas hyper drôle,
c'est la scène la plus
mélange d'émotions.
C'est la scène la plus difficile à regarder de ce film. C'est un film où il y a beaucoup de singes, donc j'aime bien les comédies avec des singes. Je trouve que c'est quelque chose qui manque au cinéma français. Mais voilà, je recommande The Square, qui va essayer d'avoir le Oscar du meilleur film étranger face à la rigolade, puisqu'il y a Loveless et tous les autres films méga tristes.
Faute d'amour, oui.
Il y a que des films méga tristes, des trucs avec des morts et des machins. Je pense qu'il a presque sa carte à jouer là-dedans.
Ou alors La La Land va l'emporter.
Non, c'est bon, à donner. Donc voilà, The Square. Merci à Quentin, le roi de la télé, à la technique. Pour vous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées, et puis également sur SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on aura la joie immense de parler d'une comédie qui est à la fois une adaptation de BD. Et ouais, c'est pas Gaston Lagaffe, c'est Spirou. On vous dit à la semaine prochaine.
L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi.
Fan footage, le lundi à 19h.
Bah, il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive.
Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors.
C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ?
Et sur toutes les applications podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.